L'idée vraie, car nous avons une idée vraie, est quelque chose de distinct de ce dont elle est l'idée. Autre est le cercle, autre l'idée du cercle. L'idée du cercle n'est pas un objet ayant un centre et une périphérie comme le cercle. Et pareillement, l'idée d'un corps n'est pas ce corps même, étant quelque chose de distinct de ce dont elle est l'idée. Elle sera donc aussi en elle-même quelque chose de connaissable. C'est-à-dire que l'idée, en tant qu'elle a une essence formelle, peut être l'objet d'une autre essence objective et, à son tour, cette autre essence objective considérée en elle-même sera quelque chose de réel et de connaissable et ainsi indéfiniment. Pierre, par exemple, est un objet réel. L'idée vraie de Pierre est l'essence objective de Pierre. Et en elle-même, elle est aussi quelque chose de réel qui est entièrement distinct de Pierre lui-même. Puisse donc que l'idée de Pierre est quelque chose de réel, elle sera aussi l'objet d'une autre idée qui contiendra objectivement en elle tout ce que l'idée de Pierre contient formellement. Et à son tour, cette idée, qui aura pour objet l'idée de Pierre, aura aussi son essence qui pourra de même être l'objet d'une nouvelle idée, et ainsi indéfiniment. Chacun peut l'éprouver en voyant que, sachant ce qu'est Pierre, il sait aussi qu'il sait, et encore sait qu'il sait qu'il sait, etc. Il est constant par là que, pour connaître l'essence de Pierre, il n'est pas nécessaire que l'entendement connaisse l'idée même de Pierre, et encore moins, l'idée de Pierre, ce qui revient à dire que je n'ai pas besoin pour savoir, de savoir que je sais, et encore bien moins, de savoir que je sais. Pas plus que pour connaître l'essence du triangle, il n'est besoin de connaître celle du cercle. C'est le contraire qui a lieu dans ces idées. Pour savoir que je sais, il est nécessaire que je sache d'abord. Il suit de là évidemment que la certitude n'est rien en dehors de l'essence objective elle-même, c'est-à-dire que la manière dont nous sentons l'essence objective est la certitude elle-même. Mais de là suit évidemment que pour avoir la certitude de la vérité, nulle marque n'est nécessaire en dehors de la possession de l'idée vraie. Car, ainsi que nous l'avons montré, je n'ai pas besoin pour savoir de savoir que je sais. Et de là suit de nouveau manifestement que seul peut savoir ce qu'est la plus haute certitude, celui qui a l'idée adéquate ou essence objective d'une chose. Il le faut puisque certitude et essence objective ne font qu'un. Puisse donc que la vérité n'a besoin d'aucune marque et qu'il suffit de posséder les essences objectives ou, ce qui revient au même, les idées des choses pour lever tout doute, il suit de là que la vraie méthode ne consiste pas à chercher la marque à laquelle se reconnaît la vérité après l'acquisition des idées. La vraie méthode est la voie par laquelle la vérité elle-même, ou les essences objectives des choses, ou leurs idées, tous ces termes ont même signification, sont cherchés dans l'ordre dû. La méthode pour y parvenir doit nécessairement parler du raisonnement ou de l'action de connaître. C'est-à-dire qu'elle n'est pas le raisonnement même par lequel nous connaissons les causes des choses, encore bien moins la connaissance de ces causes. Elle consiste à bien entendre ce qu'est une idée vraie, en la distinguant des autres perceptions et en étudiant la nature, de façon à prendre connaissance de notre pouvoir de connaître et à astreindre notre esprit à connaître, selon cette norme, tout ce qui doit être connu, lui traçant de plus à titre d'auxiliaire des règles assurées et lui épargnant d'inutiles fatigues. De là ressort que la méthode n'est pas autre chose que la connaissance réflexive ou l'idée de l'idée. Et n'y ayant pas d'idée d'une idée, si l'idée n'est donnée d'abord, il n'y aura donc point de méthode si une idée n'est donnée d'abord. La bonne méthode est donc celle qui montre comment l'esprit doit être dirigé selon la norme de l'idée vraie donnée.